Clémote, écodochimie, you know. Il y en a deux, bonsoir. À droite, à droite, à droite. Vaïdaber Hachem el Moshe, Achre Mot, Shne Bnei Aaron Bekorvatam, Lifne Hachem, Vayamutu. Alors, on va continuer avec ces enseignements de David Feinstein. Il présente ça comme le limoud qu'on peut tirer de ce qui s'est passé avec Nadav et Aviou. Le limoud que Aaron devait en tirer, bien qu'en fait, Aaron ait été plus grand que ses fils. Ici, il dit que Aaron était plus grand que les fils. Je vous rappelle que tu peux entrer hein, si tu veux, c'est pas interdit. Qu'en fait, mon cher Rabbeinu, quand l'histoire est arrivée, quand c'est arrivé, mon cher Rabbeinu avait dit à Aaron, Hachem avait dit à l'avance que lors de cette inauguration du Mishkan, il y aurait une tragédie. Hachem avait dit à l'avance, Bikrovaï, que je serais sanctifié à Kadesh. Et Kadesh est sanctifié par ceux qui me sont proches. Et alors, Moshe avait expliqué à Aaron, je croyais que c'est nous deux, c'est de nous deux, de toi et de moi, donc de Moshe et d'Aaron, que parlait Hachem. Mais je vois que je me suis trompé. Et c'est en fait de Nadav et d'Aviou, c'est-à-dire qu'eux sont plus krovim l'Hachem que nous. Alors ici, il s'agit de grandeur. C'est-à-dire peut-être que c'est pas la même chose. La grandeur et la proximité avec Hachem. Que Nadav et Aviou étaient peut-être plus proches. C'est mon cher Rabbeinu qui parle, qui le dit à Aaron. Il lui dit pas n'importe quoi pour le consoler. C'est devenu Torah. Il s'agit de vérité. Et parce qu'il s'agit de vérité, mon cher a donc dit clairement à Aaron que Nadav et Aviou étaient plus proches d'Hachem que Moshe et Aaron. Nous, ça nous paraît presque impossible à même penser. Comment est-ce qu'on peut être plus proche d'Hachem que Moshe et Aaron? En tout cas, c'est ce que Hachem avait dit à Moshe, en tout cas, c'est ce qui s'est réalisé de cette annonce qu'Hachem a faite à Moshe Rabbeinu. Mais ici, Rav David il présente, il pense que Aaron est plus grand que Nadav et Aviou, mais il a néanmoins des choses à apprendre de ce qui est arrivé à Nadav et Aviou. Alors il dit des choses comme ça. Il dit à Kavana, Sharchav, maintenant dans cette paracha, Ayamazir et Aaron, il y a maintenant une azara, c'est-à-dire une mise en garde sous forme d'un lave. Alors que Aaron qui est dans l'esprit, c'est la personne qui, semble-t-il, peut venir parmi tout le clan d'Israël. Il y en a un qui a un privilège. Il peut entrer dans le Mishkan, en l'occurrence, là où personne d'autre que lui ne peut entrer. Mais lui, il n'a pas de restriction sur l'espace, mais même lui aussi, il a une restriction sur le temps. Il n'y a qu'un seul moment dans l'année où Aaron pourra venir. Ça, c'est la première lecture. On verra que le Gaon, il lit un petit peu différemment. Donc là, on lui dit, tu ne peux pas venir à tout moment. Et on lui dit tout de suite que le Onesh, la sanction de tout celui qui va s'approcher du Kodesh, il va entrer dans un espace dans lequel il n'a pas le droit d'entrer, sauf si on lui en a donné la permission. Shehira, que Moshe Rana d'Avaviou, le Korvatan l'Ifne Hashem, Vayamutu. Attends, tu viens à un moment où on t'a pas permis d'entrer, tu meurs. C'est ça l'avertissement qui est donné à Aaron. Rachid dit que la raison pour laquelle cet avertissement n'a été donné que maintenant, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas dit à Aaron avant la mort de Nadav et Abihu, que si on entre à un moment où on n'a pas été invité à entrer, on va mourir. Pourquoi est-ce que c'est consécutif à la mort de Nadav et Abihu? De Mipne, dit Rashi, Mipne She'achshav, yesh tmuna. Il y a une image du Onesh. D'accord? C'est-à-dire, c'est tellement fort que ce n'est pas un Onesh qui est exprimé simplement en parole. On a vu le Onesh à l'œuvre. Voilà, ils sont morts. On les a vus. Ça veut dire on n'a pas besoin de te dire une des grandes phrases. Et voilà, ils sont morts. Une Azara, quand il y a une image du Onesh, elle est beaucoup plus forte que si on a un interdit sans l'image de la sanction. On a un interdit, on te dit la sanction, mais bon, hein, si tu fais ça, tu vas mourir. Bon. On n'a pas, on se voit pas mort si on fait la chose. On sait qu'on va mourir si on fait ça, mais il n'y a pas d'image. Là, il y avait une image. Alors, le limoud de Nadav et Avihu. La leçon de Nadav et Abihu, c'est la suivante. Ce qui s'est accompli avec la mort des fils d'Aaron, c'est ce qu'Hachem avait annoncé, Mikrovaï et Kadesh. Je serai sanctifié par ceux qui me sont le plus proche. Comme Rachid avait expliqué dans Parshat Shmini, Amar Moshe le Aaron. Moshe a dit à Aaron, Aaron achi, Aaron mon frère, yodea haiti, shiit kadesh habayit, shel makom. Je savais qu'il y aurait une sanctification du Mishkan par ceux qui sont vraiment proches d'Hachem. Va-t-il savoir, Obi, Obar? Je pensais que ce serait toi ou moi. Maintenant, je vois qu'ils sont, et là, Rachid dit, Shem Gdolim, Mimeni ou Mimcha. Vous voyez ici, c'est pas simplement ils sont plus proches. Mon cher Rabbeinu l'a traduit pour Aaron, ils sont plus grands que toi et moi. Il faut quand même expliquer alors. Alors, c'est quoi la différence entre Moshe et Aaron d'une part et Nadav et Abihu d'autre part? On ne peut pas dire qu'en vérité, Nadav et Abihu étaient plus grands que Moshe et Aaron. Ce n'est pas vraisemblable. Parce qu'on voit bien que Moshe et Aaron sont les personnages essentiel de toute cette affaire. Nadav et Abihu étaient les élèves. Alors peut-être que Moshe Rabbeinu a dit, maintenant je vois qu'ils sont plus grands que toi et moi, que cette expression-là chez Moshe Rabbeinu, c'est une expression de la anava de Moshe Rabbeinu. Mais en vérité, on peut dire que Moshe Rabbeinu voulait exprimer la chose suivante. Arshav, maintenant, Je vois qu'ils étaient plus proches que toi et moi, nous l'étions. Quand des gens sont proches du pouvoir, de la royauté, etc., en fait, il y a deux aspects dans cette proximité. Un premier aspect, c'est que il y a, par exemple, un ministre ou un prince, il fait partie du gouvernement ou de la direction. Et puis, il y a celui qui est un esclave, en fait. Lui, il est le serviteur du roi dans l'intimité du roi. Lui, il est là au coucher, au lever du roi, il voit le roi manger, etc. L'esclave, il n'a pas besoin de frapper à la porte pour entrer. Sauf s'il pense que le roi est dans une situation embarrassante, alors bon, il sait que c'est embarrassant, il va frapper. A priori, il peut entrer à tout moment. Quand il le veut, il peut entrer chez le roi. De ce point de vue-là, c'est une extrême proximité. C'était voilà, l'esclave devant le roi. Ce n'est pas de la chutzpah, c'est normal, c'est son statut qui lui donne cette façon, cette permission de se conduire comme cela. C'est même une obligation de se conduire comme ça. Le ministre ou le prince, il n'a pas cette proximité du tout. Lui, pour entrer, il doit frapper à la porte. La Gemara dans Brachot, elle dit: Veshuv maaseh berabbi Chanina ben Dosa, shalach lilmod Torah etzel Rabbi Yochanan ben Zakkai, vechala beno shel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il est allé étudier chez Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est le Gadolador. Il va étudier chez lui et le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est malade. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai dit à Rabbi Chanina, il lui dit, Chanina béni, il dit à son élève, prie pour lui et qu'il vive. Alors Rabbi Hanina, il a pris une position fœtale. Il a mis sa tête entre ses jambes et il a prié, il a demandé à Hachem, Rachamim, que l'enfant vive. Vous vous souvenez, je crois que j'avais, bon, c'était avant, quand on était avant de devenir esclave et sortir d'Égypte, là, on avait vu, je crois que c'est de Rabbi David aussi, que il y a deux sortes de prières. Ah, ça, c'est pas possible. D'accord? On ne peut pas être à la fois dans l'écran et à la fois en présentiel. Ça, vous n'avez droit qu'à une seule place. Il y a deux aspects dans la tfila. La prière est une demande. Quand on demande quelque chose, alors, il avait expliqué que la prière doit être aussi courte que possible. Le modèle étant Kel na refa na la. La prière de Moshe Rabbeinu pour Myriam. D'accord? Alors, Hachem guérit-la. Il ne faut pas faire des longues phrases quand on demande. Tu demandes ce dont tu as besoin, c'est tout. Et puis, il y a une autre forme de prière qui est une espèce de yichud avec Hachem. Une situation dans laquelle on est dans un rapport de proximité. On se tient avec Hachem, on discute, on parle avec Hachem. En Eretz Israël, il y a l'habitude dans le monde des Yeshivot qu'en été, on fait la tfila de Mincha après le deuxième seder, après l'étude de l'après-midi, parce que on a le temps de la faire avant la Shkia, avant le coucher du soleil. En hiver, on fait plus tôt, avant le cours, et là, on fait. Et il se trouve que les élèves sont aperçus que le Rav Volbeit, mon maître, disait, il priait pas avec les élèves, mais il priait plus tôt en été. Aussi en été, il priait au début de l'après-midi. On lui a demandé pourquoi vous priez pas avec tout le monde. Il a dit, mais moi, je peux pas rester sans communiquer avec Hachem aussi longtemps, toute une après-midi, sans, depuis le matin jusque tard le soir, fin d'après-midi, je peux pas rester sans être en présence d'Hachem. Je ne peux pas rester si longtemps. Donc, ça veut dire, ici, c'était une espèce de yichud, d'unité, de séance presque d'intimité avec Hachem. Pour lui, Mincha, c'était comme ça. C'était, je pense que. Et donc, il faut faire une différence. Et on avait expliqué comme ça pourquoi Hachem fait le reproche à Moshe Rabbeinu. Au moment du passage de la mer, quand Moshe Rabbeinu prie, Hachem lui dit, mais qu'est-ce que tu pries? Alors, dans le Midrash, c'est marqué, Hachem lui a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, Hachem lui a dit, mais dis-leur d'avancer. Et ça veut dire, la question, elle vient tout de suite. C'est marqué partout. C'est aussi marqué dans la halakha, qu'en situation de difficulté, il faut prier. Il y a une mitzvah de prier. Il y a la prière 3 fois par jour, et puis il y a la prière en dessous de situation, à Kol Tzara, Shelo Tavo. C'est l'occasion de prier. Alors pourquoi on fait le reproche à Moshe Rabbeinu de prier? Parce qu'il était en train de prier dans la deuxième version. Il avait un yichoud avec Hachem. Et Hachem lui a dit, c'est pas le moment de faire ce yichoud-là. Maintenant c'est le moment, si tu as quelque chose à demander, demande. Mais maintenant si tu as déjà demandé ce qu'il fallait, alors, dis-leur d'avancer. Alors, ici, effectivement, le Rav Hanina, à la demande de son maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a pris une certaine position presque fœtale, d'accord? Et il bikesh alav rachamim v'chaya. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, Il m'allait, il tiach ben Zakai, et trop chaud ben Birkav, kolayom kulo, loayou mashgichim. Il a dit sur lui, en parlant de lui-même à la troisième personne, il avait dit, si Yohanan ben Zakai avait mis sa tête entre ses jambes, entre ses genoux, et qu'il avait prié pendant toute la journée, personne ne se serait occupé de lui. Hachem n'aurait pas répondu. Et pourtant, Hanina, mon élève, il a suffi que ils se mettent en position et qu'ils demandent à Hachem, guéris-leur. Hachem l'a guéri. Alors sa femme, madame, la femme de Rabbi Yochanan Zakkai, lui a demandé, lui a dit quoi, il est plus grand que toi, Hanina? Ton élève est plus grand que toi? Alors il lui a dit non. Mais lui, il est comme un évêque devant le roi. Et moi, je suis comme un prince devant le roi. Et donc, moi, je n'ai pas cet accès direct. C'est-à-dire qu'à la limite, le limoud pour nous, ça veut dire que si tu veux demander quelque chose, il faut prendre une posture de Eved et pas venir avec toute ta grandeur, qui que tu sois, d'accord, prendre la position la plus. D'accord, prendre une position fœtale, ça veut dire on revient, je suis rien du tout, quoi. Je n'aime plus rien du tout. Il y a l'autre exemple de celui qui a pris la fameuse position fœtale, Ben Doudaya, qui était le fameux bandit ou mauvais sujet qui avait fait à peu près toutes les avérotes qu'on peut. Je dis à peu près, mais la Gemara a l'air de dire qu'il les avait fait toutes. Il a fait toutes les avérotes qu'on peut faire et il a voulu faire tchouva à la fin de sa vie. Il a demandé de l'aide à tout le monde, à la montagne, à la rivière, au ciel, à la terre. Personne, j'en dis, tu sais, nous, c'est tout juste si on a de quoi survivre, alors on ne peut pas beaucoup t'aider. Et en désespoir de cause, il a pris cette position fœtale et il s'est mis à pleurer. Et il est niftar en pleurant, dans cette position-là. Une position fondamentale pour prier vraiment. Et la tefila était d'une efficacité telle qu'il y a eu un bat kol qui a dit que ce Ben Dourdaya, Rabbi Ben Dourdaya, Rabbi Elazar Ben Dourdaya, il est accepté au monde à venir. Alors Rabbi qui était à côté, il a dit non seulement il y a des gens, ils font toute leur vie, ils font des averot, à la dernière minute, il fait ce qu'il faut, et Hachem permet, mais en plus on l'appelle Rabbi. Quel yeshiva il avait là, d'accord. Spécialiste en cambriolage, je ne sais pas quoi, autre averot. Non, c'est ça. Il est appelé Rabbi. Alors, le problème, c'est en quoi est-ce qu'il est Rabbi? Le bat kol, il dit pas n'importe quoi. On ne dit pas dire Rabbi pour, comme on dit à n'importe qui, Rabbi. Non, il est Rabbi parce qu'il enseigne quelque chose de fondamental. En faisant ce qu'il a fait, il nous a enseigné une certaine manière, bon, quelque chose qui était connu de Rabbi Hanina et de Ben Zakkai, etc., que cette position fœtale, en fait, quasiment, c'est une attitude. Je sais pas si je n'ai jamais vu dans la halakha qu'on dise à quelqu'un qu'il faille prendre cette position pour prier, mais dans la tête, il faut se représenter dans cette situation-là, complètement s'annuler complètement. Je ne suis rien du tout, un fœtus quasiment. Et donc ça, en cela, il est un maître. Il y a des gens qui sont des maîtres dans des domaines bien précis, bien qu'ils ne soient pas des maîtres tous azimuts. Quelqu'un peut être un maître même dans une partie de la Torah. Et pas dans toute la Torah, il est un maître quand même. Là, il est un maître dans la prière de celui qui comprend que tout dépend de lui. Il n'y a plus que lui qui puisse faire les choses et il comprend que les choses, il ne pourra les faire que si il accepte de casser complètement son ego et de se tenir devant Hachem comme rien du tout devant Hachem. C'est-à-dire que la femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle s'est étonnée. Comment est-ce qu'il est possible que l'élève soit plus grand que le maître? Là-dessus, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit non. Sauf que lui, il est évêque devant le roi et moi, je suis un prince. Et c'était ça, en fait, la grandeur des fils d'Aaron, dit Rabbi David. Eux, ils étaient quasiment Eved Lifnei HaMelech. Et donc, ils étaient très proches, plus proches que nous, devant Hachem. De telle sorte qu'eux, ils pouvaient entrer à tout moment, quand ils le voulaient, dans la proximité. Plus que Moshe et Aaron, qui eux étaient vraiment très très grands et plus grands qu'eux. Mais eux, ils étaient comme des princes. Bon, on peut discuter cette proposition de Reb David parce que c'est difficile à dire en même temps que l'enseignement qui disait ce qu'il dit sur Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu était un ave plus que quiconque. Et donc, je ne sais pas exactement. Bon. Reb David le dit, et il connaît aussi ce Chazal et il en a tenu compte, mais bon. Et par conséquent, le limoud pour Aaron, puisque c'est d'Aaron qu'il s'agit, c'est Moshe parle à Aaron et c'est Moshe qui dit à Aaron, ne viens pas à tout moment, ne, tu ne peux pas entrer à tout moment chez le roi. Ben, ce n'est pas possible. Le limoud, c'est que Si Nadav et Avihu, qui étaient Eved Bifne Amelech, des gens qui pouvaient entrer à tout moment, quand ils le voulaient, et malgré tout, ils sont morts parce qu'ils se sont approchés d'Hachem d'une manière qui leur avait pas été prescrite. Il n'y avait pas de tzivouï d'amener du feu. Ascal Vachomer, le Aaron, qui lui n'est pas Eved, il est un sar, il est un prince devant le roi. Combien c'est grave pour lui d'entrer à un moment où il n'a pas été prescrit qu'il doive entrer. Alors, bien sûr, il est possible que Aaron, qui était lui aussi extrêmement humble devant Hachem, il ne se soit pas considéré comme un prince. Aaron s'est peut-être considéré comme un évêque devant Hachem. Et peut-être parfois, la anava, elle peut être une raison d'être en échec. Ça peut être la raison de l'échec. Parce que puisqu'il pensait, peut-être qu'il pensait cela, qu'il avait le droit d'entrer à tout moment. Là-dessus, il y a un limoud aussi de Nadav et Avihu, qui eux étaient vraiment Eved Lifnei Hashem. Et malgré tout, là, ils ont été condamnés à mort parce qu'ils se sont permis d'entrer sans la permission. Et c'est ça, Aharei Mot Nebnei Aaron, après la mort des deux fils d'Aaron. Il y a un limoud spécial pour Aaron, que si même le Eved ne peut pas entrer à tout moment, preuve, Nadav et Avihu, Ascal Vachomer, plus forte raison que le prince ne peut pas entrer à tout moment, même s'il se pense Eved. Et c'était ça l'erreur, en fait, d'Aaron de penser que puisque je suis, me considère comme un évêque, alors je pourrais entrer à tout moment. Alors, ce qu'on lui dit, voilà, le limoud pour Aaron. Tu ne peux pas entrer à tout moment. C'est pas possible. Le Rav Volvé, il lerne ce passouk un peu différemment. Lui, il s'arrête sur le fait que, en fait, que le passouk dit un peu plus que ça. Aliavo, hein. Il peut pas venir à tout moment. Il est obligé de Hachem lui dit à Moshe, dis-lui que il peut pas venir à tout moment dans la Kodesh, mais mettre la parochette. El pene a kaporet, Asher al Aaron, velo yamut, ki be'anan eraya la kaporet. Et bezot yavo Aaron et la Kodesh. Voilà avec quoi Aaron veut se présenter pour entrer de l'autre côté du rideau. Le rideau, c'est un rideau qui séparait le Kodesh HaKodashim du Kodesh. En français, c'est le Saint des Saints du Saint. Et donc, dans le Kodesh HaKodashim, il n'y avait que le Aaron. C'est tout ce qu'il y avait. C'est très paradoxal parce qu'il y avait un Aaron à l'intérieur duquel on sait qu'il y avait les deuxièmes louchot, les brisures des premières et un Sefer Torah. Sefer Torah que Moshe a écrit. Et tout ça a été mis dans la boîte, dans le Aaron. Il y a le couvercle par-dessus et on n'a jamais ouvert la boîte. C'est-à-dire qu'on, à la limite, peut-être le Sefer Torah, il aurait pu s'en aller. On l'a mis une fois dedans, mais personne n'est jamais allé vérifier qu'il y était toujours. Le Kohen Gadol n'ouvrait pas le Aaron quand il entrait dans le Kodesh HaKodashim. Alors, Avolbe, il est comme ça. Dans Rashi, c'est marqué sur Ki be'anan erae. D'accord? Dans le Passouk, Be'anan, c'est le Passouk Bet. À la fin du Passouk Bet. Bon. Alors, c'est marqué Car dans une nuée, dans un anan, erae à la caporette, j'apparaîtrai sur le couvercle. Vous vous souvenez, sur le couvercle en question, il y a les Krouvim. Et cet endroit-là, entre les deux Krouvim, c'est de cet endroit que quand mon cher Rabbeinu entrait dans le Mishkan pour que Hachem lui parle, la voix que Moshe percevait, elle semblait venir d'entre les Krouvim. Alors, ce n'est pas très clair du tout. Comment on sait que c'est entre les Krouvim? Dans la mesure où les Krouvim, ils sont sur le Aaron. Le Aaron, il est de l'autre côté du rideau. Et Moshe n'est pas de l'autre côté du rideau. Donc, quand on dit ça semble venir, c'est-à-dire qu'on sait où était le Aaron à cause des Badim. Il y avait la place des deux barres qui servent au transport du Aaron. Mais la singularité du Aaron, c'est qu'on n'enlevait pas les barres. Les barres de transport qu'on avait aussi pour transporter le Shulchan, par exemple, il y avait des barres qu'on utilisait pour le Shulchan quand on posait le Shulchan, on enlevait les barres, des barres de transport. Les barres du Aaron devaient rester fixes sur le Aaron en permanence et on voyait comme deux bosses dans le rideau. On savait où étaient les barres, donc on pouvait deviner que à peu près là, on savait les dimensions et on sait combien, à quelle hauteur par rapport aux barres se trouvait le couvercle. Et on sait, bon, c'était très petit tout ça, c'est très petit, donc c'était relativement facile de savoir où était à peu près le Makom des Krouvim. Mon cher Abenou, il percevait la voix comme si elle venait de là-bas. Et Hachem a dit, je me manifesterai sur le couvercle. Cette manifestation sous forme d'une nuée, c'est quelque chose qu'on connaît, vous connaissez. Cette fameuse nuée, elle existe. Elle était là sur la tente de Sarah, Imenu. Dans la tente de Sarah, Imenu, il y avait un petit nuage, une petite nuée là, avec dans les Nissim qu'il y avait avec le. La tente de Sarah Imenu, Nissim qui se reproduisent quand Rivka habite cette même maison, cette même tente. Et le Ramban dit que les Bnei Israël ne sont véritablement sortis d'Égypte seulement quand ils ont retrouvé cette situation où le Hanan, qui était le Hanan, cette nuée, qui était la nuée qu'avaient les Avot, ils l'ont retrouvé avec le Mishkan. Pour le Ramban, la sortie d'Égypte, elle a duré d'abord 50 jours jusqu'à Matan Torah. Et après Matan Torah, malheureusement, les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or. D'accord? Et puis après, il a fallu que Moshe Rabbeinu monte et remonte et remonte pour obtenir les deuxièmes Loukhot. Et avec les deuxièmes Loukhot, il a reçu l'ordre de construire le Mishkan. Et donc, c'est à ce moment-là seulement quand le Mishkan. Et le Mishkan, il était construit à Hanouka, en fait. Il a été inauguré en Nissan d'après, mais en vérité, il était construit déjà à Hanouka. Mais pour des raisons qu'Hachem avait, il n'a pas voulu faire l'inauguration à Hanouka. Et par contre, l'inauguration du deuxième, la deuxième inauguration du deuxième Beth Amikdash qui a eu lieu à Hanouka, c'est en fait une façon de rembourser le retard, enfin de rattraper le retard qu'il y a eu au moment de l'inauguration du premier Beth Amikdash. Au lieu de l'inaugurer en Hanouka, en Kislev, il n'a été inauguré qu'en Nissan d'après. Donc, Hachem a dit, je me manifesterai, Ibéana Nerae, Itamid Ani Niresham, Im Amud Anani. C'est-à-dire que la manifestation d'Hachem sera toujours là-bas, sous la forme, comment est-ce que concrètement on saura qu'Hachem est là, il est partout, mais il est là et il veut nous parler, quoi, quelque part. Il veut l'interaction avec le Bnei Israël. C'est quand il y a la manifestation avec cette nuée, ce Anan. Alors, le Rav Hobe, il dit à Ramban, il dit que le Mishkan ou Emcher Shel Mamad Har Sinai. Alors, en plus de ce que je vous ai dit, qu'on est vraiment, c'est pour le Ramban. Le Ramban a dit on est vraiment sorti d'Égypte que quand il y a eu le Mishkan. Et par ailleurs, le Ramban dit que le Mishkan, c'est un espèce de Sinaï portatif. Pour Ramban, le Sinaï, ce n'est pas un événement qui a eu lieu une fois pour toutes. Le Sinaï, c'est quelque chose qui se rejoue à chaque fois, chaque moment. Le Sinaï se rejoue avec le Mishkan, c'est-à-dire que le clan d'Israël, il a besoin de cette permanence du Sinaï. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est du Beth Amikdash, je n'ai pas dans la tête que le Ramban dise quoi que ce soit. Est-ce qu'il va dire que le Beth Amikdash, c'est aussi un remèze? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est seulement le Mishkan portatif dans le désert qui avait ce dîme? Est-ce que Shiloh, est-ce que à partir du moment où c'est devenu un peu plus fixe, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, est-ce qu'il y a encore cette idée-là de Sinaï portatif? Est-ce que le Mishkan, est-ce que le Beth Amikdash, c'est encore aussi un remèze du Sinaï? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le Mishkan est un remèze, ou peut-être plus qu'un remèze, c'est le Sinaï. C'est l'événement Sinaï, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le Sinaï? C'est le moment où Hachem parle aux hommes. Et qu'est-ce que c'est le Mishkan? C'est le lieu où Hachem parle aux hommes. Après que le Mishkan a été érigé, alors le Ramban dit Kavta Ha'esh. À l'Ar Sinaï, Vashchina avra la Mishkan. Très étonnant tout ce qui est écrit là. Vous entendez ce qu'il dit? Le Ramban dit que quand Hachem s'est manifesté au Sinaï, dans le fameux son et lumière qu'il y avait à ce moment-là, il y avait du feu. Il a l'air de dire que le feu est resté sur le Sinaï jusqu'au moment où ils ont construit le Mishkan. Et à ce moment-là, le feu s'est éteint Parce que le feu, c'était une manifestation de la présence d'Hachem. Et maintenant, cette présence d'Hachem, elle s'est transportée à l'intérieur du Mishkan. Donc, on éteint le feu. Alors, c'est seulement un peu difficile de penser, mais bon, ça doit être comme ça quand même, qu'il y avait du feu sur le Sinaï. Malgré tout, sur le Sinaï lui-même, il n'y avait plus de Kdoucha. Et que dès qu'Hachem a terminé de parler, on a mis les troupeaux à faire à paître sur le Sinaï. Donc, à la fois, il y avait des troupeaux qui paissaient le début, le bas du Sinaï, et au haut du Sinaï, il y avait le feu encore. C'est un peu paradoxal. Enfin, ça me paraît un peu paradoxal, mais le Ramban dit comme ça. Donc, il y avait ce signe de la présence d'Hachem. Et dans Rashi dit, Tamid ani nirei sham im amud anani. Toujours, je me manifesterai là-bas avec ce nuage. Ou le fiche gilouish rinati sham isaer shelo yargil lavo. Une drôle de formulation. Et parce que il y a le dévoilement de ma présence divine là-bas. Alors il faut faire un peu attention de ne pas, chez l'eau, yargil lavo, ne pas s'habituer à venir. C'est quoi cette histoire? Ou bien on peut y aller ou on ne peut pas y aller. Que ça veut dire ne pas s'habituer à y aller? Ouais. C'est quoi? Et s'il y a. Et s'il y allait, je ne sais pas, moi, 3 fois par an, c'est encore pas une habitude d'y aller. Il y a des enseignements qui ont l'air de dire que c'est seulement d'une certaine manière qu'il ne pouvait pas entrer, Aaron. Il y avait des manières d'entrer le reste du temps. Mais à Kippour, c'était une certaine façon d'entrer qui n'était permise qu'une seule fois dans l'année, mais c'est comme s'il pouvait entrer comme... Non, vous savez, je voulais entrer. Bon. Entrer avec, je sais pas, une plus grande solennité ou des conditions particulières, ça, c'était seulement une fois par an à Kippour. Mais entrer d'autres manières, parce que c'est une expression étrange, non? C'est lo yargil, c'est la chose de Hergel. Hergel, ça veut dire pas qu'ils prennent la mauvaise habitude de, pas marqué mauvaise, mais l'habitude de l'année. L'habitude, c'est pas une fois seulement. Et à la fin de Parchat Pekoudé, on dit Vaïchas Anan et à Oel Moed, ou Kvod Hashem, Malet à Mishkan. Et la gloire divine a rempli le Mishkan. Et c'était tellement dense, cette gloire divine, que Moshe ne pouvait pas entrer. Moshe ne pouvait pas entrer dans le Mishkan à cause de ça. Regarde Moshe là-bas, El-Moed. Ça veut dire quoi? Le Kavod d'Hachem remplissait le Mishkan de telle sorte que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas entrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Dire à Volbeck que le dévoilement de la Shrina dans le Mikdash était à un niveau tellement élevé, c'est-à-dire que on était dans un monde où il n'y avait que la Elakout, il n'y avait que du divin, c'est-à-dire il n'y avait pas de place pour un corps humain, si vous voulez, quelque chose qui n'est pas complètement divin. Bien sûr que le monde entier, comme nous le disons dans chaque Kedusha, il est Malé Elakout, il est plein de la divinité, à tout endroit en fait. N'y a rien d'autre, d'une certaine manière, que la Elakout dans le monde. Mais dans le Mishkan, où le dévoilement de la présence divine était tellement fort, au point que ça remplissait le Mishkan, là, Moshe ne pouvait pas entrer. Ibéanan Eraé, dit toujours Rashi, commenté par Rabolbé. Rashi dit, Kitamid ani nirae sham im amud anani, Zéou, dit Rashi, Zéou pshuto. Ça, c'est le pshat. Maintenant, Rabotenu darshu, les Chachamim ont fait une dracha. Ils ont interprété ce verset. Ve'al yavo ki'im be'anan aktoret ve'yom ha'kippourim. C'est-à-dire qu'au lieu de parler du Anan qui atteste de la présence d'Hachem, les Chachamim ont dit, on va remplacer, en quelque sorte, un Anan qui atteste de la présence d'Hachem par un Anan fabriqué par les hommes, un Anan de Ktoret, une nuée d'encens, d'accord? C'est l'espèce de d'encens, enfin la fumée en quelque sorte de l'encens. Et Aaron va amener cet encens, il va entrer avec ce nuage-là, comme si, voilà, on va remplacer un nuage d'origine divine par un nuage d'origine humaine le jour de Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire? Le problème avec cette dracha, c'est Eraé. Eraé, c'est un futur. Et Rashi, il explique que la kavana, c'est la shon ové, parce que c'est un présent, parce qu'il dit tamid ani nirasham. Tamid, donc c'est présent. Parce qu'on a l'impression que le midrash, il est presque plus pashut que le pshat. Erae akavana, bon, c'est lashon atid, c'est-à-dire on parle ici du futur, c'est-à-dire du Anan Aktoret à Yom Kippour. Mais en vérité, c'est bien clair que pour le Midrash, il y a quelque chose de fondamental dans le Pshat, qui est que Erae, c'est bien un lashon atid. C'est vraiment un futur. Et donc, parler de ce qui va se passer à Yom Kippour, on n'est pas à Yom Kippour à ce moment-là. Et le problème, c'est, est-ce que Aaron peut entrer à tout moment en dehors de Yom Kippour? Dieu non. À Yom Kippour, c'est comme ça qu'il doit venir, avec le Hanan Aktoret, avec cette espèce de remplacement de Hanan par un autre Hanan. On remplace le Hanan d'Hachem par le qui indique la présence. C'est les hommes qui doivent, en quelque sorte, substituer. C'est nous qui allons, en quelque sorte, provoquer la présence d'Hachem avec la. Enfin, Aaron va le faire avec le Hanan qu'il va amener. À ce moment-là, Kippour. Il dit Bezot, Yavo Aaron et la Kodesh. Il va venir Bepar Ben Bakar, comme Khatat, Ve'ail Leola. Il va venir avec deux korbanot, un korban comme khatat. Khatat, c'est le korban qu'on amène qu'on a fait une faute et qu'on veut obtenir le pardon. Et un autre korban qui va être approché en hola, c'est-à-dire une hola, c'est un korban dont les hommes ne bénéficient en rien. Il est entièrement consumé sur le Mizbéach. Quelque sorte, il est entièrement donné à Hachem, si on peut parler comme ça. Dans les autres korbanot, on donne une petite partie du korban qu'on met, on met quelque chose, un peu des entrailles sur le misbéach qui sont brûlées pour Hachem, et tout le reste, c'est mangé par, des fois c'est les kohanim, des fois c'est les propriétaires du korban, selon le type de korban. Donc les hommes en bénéficient essentiellement. Mais une hola, c'est un korban qui est entièrement dédié, donné à Hachem. Les hommes n'en tirent rien. Et donc, il y a deux korbanot. Un khatat, dont la viande va être mangée par les kohanim, et une hola qui est entièrement pour Hachem. Bezot. Alors, Rashi donne ici une gematria de bezot, une valeur numérique de bezot. La gematria, c'est 410. 410, quand on entend 410, il faut penser, c'est la durée de vie du premier Beth Amikdash. Les deux Beth Amikdash ont vécu à peu près 400 ans. Le premier 410, le deuxième 420, mais 410, c'est le premier. Qu'est-ce que Rashi vient nous dire ici? Bezot. Avec ça, ce mot-là, zot, sa valeur numérique, c'est 410 et c'est un remèze. Ça fait allusion à la durée de vie du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash. Maintenant, bezot yavo, ça veut dire à Kippour, le Kohen Gadol va entrer. Le Kohen Gadol, il entre aussi dans le deuxième Beth Amikdash à Kippour, pas seulement dans le premier. Donc, Bezot, c'est valable pour le premier comme pour le deuxième. Et le deuxième, il n'a pas vécu 410 ans. Alors, pourquoi dire que Bezot fait référence au premier Beth Amikdash, alors que le passouk s'applique au deuxième tout autant qu'au premier. Donc, il y a un commentaire qui s'appelle Sipsé Chachamim. Souvent, il est juste à côté de Rashi. Dans Sipsé Chachamim, il dit que c'est seulement dans le premier Beth Amikdash que le Bezot, auquel fait allusion le Bezot, que le Kohen Gadol va entrer dans le Beth Amik, dans le Kodesh HaKodashim comme Aaron entrait, etc. Au Bayit Sheni, le Kohen Gadol, il n'avait pas été oint. Il y a une meshicha, une onction avec de Shemen HaMishcha qui avait été faite. Aaron, il a été oint. Et au premier Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il était oint aussi. Mais au deuxième Beth Amikdash, on n'avait plus de Shemen HaMishcha. Donc le Kohen Gadol, il n'entrait pas vraiment comme Aaron parce qu'il n'avait pas l'onction qu'avait Aaron. C'est ce que dit le Siftei Chachamim. Pour essayer d'expliquer pourquoi on interprète Bezot par rapport au premier Beth Amikdash, alors que le Passouk s'applique évidemment au deuxième aussi.
Ah, mais il n'y avait pas non plus le Aaron.
Pardon?
Il n'y avait pas non plus le Aaron dans le deuxième Beth Amikdash.
Non, il n'y avait pas de Aaron, mais il entrait quand même dans le Kodesh HaKodashim. L'idée, ce n'est pas par rapport à la présence ou non du Aaron, c'est par rapport à l'entrée dans le Bezot Yavo. Bezot Yavo, il pourra entrer dans le Kodesh HaKodashim. Il entrait dans le deuxième, au deuxième Beth Amikdash aussi, vous avez parfaitement raison. Qu'il n'y avait plus de Aaron au deuxième. Mais surtout, le Cohen n'était plus le même, quoi. Il n'était plus, il avait plus toutes les dimensions. Le fait que d'avoir une onction, c'est quelque chose de particulier, si vous voulez. C'est une façon de dédier, de singulariser, de faire en sorte que le Cohen, il a été oint exactement comme on a oint tous les ustensiles du Mishkan. Ils ont été oints avec ce Shemen HaMishra. C'est une façon de consacrer, si vous voulez, oui, de consacrer, au sens étymologique du terme, de consacrer le Kohen Gadol à sa Avoda. Cette consécration-là, elle n'existe pas au deuxième Beth Amikdash. Il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas au deuxième Beth Amikdash. Mais en l'occurrence, puisqu'on parle de ce que faisait le Kohen Gadol, le Siftei Chachamim, il pense que c'est la raison pour laquelle la dracha de Bezot, bien qu'elle soit se fasse sur un verset qui concerne les deux Bates Migdash, la dracha, elle est sur le premier seulement. La dracha, la gematria en fait. On n'a pas appris de halakha de cette gematria. Alors, on va revenir sur les Nadab et Avihu avec un enseignement de Rabbi David Feinstein. Dans le passage, c'est marqué de Korvatam l'Ifne Hashem. Nadab et Avihu, quand ils se sont approchés d'Hashem, ils étaient devant Hashem, Vayamut. Alors, une des drachotes, quelle faute ils ont faite? On leur attribue beaucoup, beaucoup de fautes, à Nadab et Avihu. Une, c'est Shehoru Alacha b'fnei Rabbam. Un élève n'a pas le droit de dire la Halacha, d'enseigner la Halacha devant son maître. Devant le maître, ça veut dire dans l'espace, dans la ville de son maître ou dans le quartier de son maître, etc. Là, ils étaient en présence de Moshe Rabbeinu et ils ont dit la On sait que Chazal, tout le monde connaît ce que Chazal ont dit sur le verset Vaikrou l'ifne Hashem, Veyakri vous pardon l'ifne Hashem, Esh Zara. Ils ont approché devant Hashem un feu étranger. Asher lo tivaotam. Un feu qui ne leur avait pas été prescrit. Alors, il y a deux choses. D'un côté, on dit c'est Esh Zara, un feu étranger. Et d'autre part, on dit c'est pas qu'il était étranger, mais il n'a pas été prescrit. Alors, il dit Bemet. Ce n'était pas un feu étranger. Parce que on a une leçon qui dit que c'est une leçon que Moshe Rabbeinu a donnée, que Afalpi she'aesh yoredet min ha-shamayim, mitzvah la'avi min ha-idyot. À l'inauguration du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu voulait, pour qu'on n'oublie pas, c'est ça le paradoxe si vous voulez, c'est que on fait la Avoda. Dans la Avoda, on va donner des choses à Hachem. Bon, alors c'est un peu ridicule parce que on donne à Hachem des choses qu'il nous a données. Alors c'est un peu, on est presque toujours dans la position du petit enfant qui va avec sa mère pour acheter un cadeau d'anniversaire à sa mère. D'accord? Donc la mère, elle va acheter le cadeau, elle va le donner au bébé, enfin à l'enfant, et l'enfant, il va donner, et on va faire comme s'il avait donné un grand truc. Nous, on est un peu dans cette situation-là. N'est-ce pas? On donne à Hachem des choses qu'il nous a données. On ne peut pas faire autrement, rien d'autre. Alors, la halakha, elle est, Hachem voulait qu'il soit bien clair que l'avoda qui va se faire, elle se fait avec Hachem. C'est une avoda pour Hachem dans laquelle Hachem est partie prenante. C'est une avoda qui se fait avec le feu, mais le feu, c'est Hachem qui le donne. C'est-à-dire, nous, on apporte d'un corban, et a priori, qu'est-ce qu'on fait avec un corban? On va brûler une partie ou la totalité, dans, si c'est une hola ou une partie, avec du feu. Mais quel feu? Le feu, Hachem le donne. Bon, alors, il y a un paradoxe sur lequel je ne vais pas entrer maintenant. Seulement, il y a une halakha qui est que, bien qu'on ait ce feu d'origine divine, il y a une mitzvah d'amener, tu prends ta boîte d'allumettes et tu amènes le feu aussi. On va amener le feu aussi. Un feu d'origine humaine. Il y en a les deux. C'est-à-dire, bien entendu, cette idée d'approcher du feu par eux-mêmes, qu'ont eu Nadav et Abihu, ils ne l'ont pas inventé. Parce que En raya la vie esh mina idiot, im esh kvar esh mina shamaim, ela ki echech shekach shamu mi Moshe Rabbeinu. Le fait qu'ils aient voulu amener un feu qu'ils avaient allumé eux-mêmes, en plus du feu qui allait venir du ciel, c'est une halakha qu'ils ont apprise de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, sauf le jour de l'inauguration, c'est comme ça qu'on va faire. Le jour de l'inauguration, Hachem avait prévu qu'on voit très clairement que c'est lui qui donne le feu. Et donc, il n'y avait pas de prescription d'amener ce jour-là un feu d'origine humaine. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ce feu s'appelle Eshdara? Si c'est un genre de feu qui n'est pas du tout étranger, ce n'est pas étranger d'amener un feu d'origine humaine en même temps que le feu d'origine divine. Mais comme ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu au départ, est-ce que nous pouvons le faire? C'est en cela qu'on dit Oru halacha lifnei Rabbam. Ils ont décidé la halacha sans consulter leur maître. Ce défaut-là dans leur conduite, de ne pas s'annuler devant leur maître, c'est ça qui fait que on appelle Eshzara le feu qu'ils ont amené. C'est pour ça qu'ils ont été punis. Bien que la halakha, elle soit comme eux ils disent, mais ils auraient dû demander la permission à Moshe Rabbeinu. Donc l'idée même de devoir s'annuler en quelque sorte, de ne pas se permettre, même si on la connaît, de dire la halakha devant son maître, c'est quelque chose de tellement important de ne rien faire sans demander la direction, d'agir sous la direction de son maître. Même de dire Yalé Veyavo à Rosh Kodesh. En vérité, on aurait demandé d'abord à son maître, est-ce que je peux dire Yalé Veyavo? Et c'est seulement parce que nous savons que ça lui casserait les pieds, ça le chargerait de trop qu'on se permet de ne pas le faire. On trouve aussi dans l'Agmara, dans Massechet Eruvin, que s'il y a un grand maître dans une ville, alors le Shochet, il doit aller lui présenter ses couteaux. L'habitude, c'est qu'un Shochet, il fait vérifier les couteaux qu'il utilise pour la Shrita, pour voir s'ils sont bien affûtés, par le rave de la ville. Mais quand il y a quelqu'un d'important, le kavod qu'un Shochet doit à Adam Gadol, c'est de lui montrer ses couteaux. Et bien qu'en vérité, le Shochet il montre pas ses couteaux tous les jours au rav de la ville, mais quand il y a devant lui quelqu'un de très important, alors il faut lui montrer. C'est la raison pour laquelle la nuit où on commence à dire Talumata, par exemple, la nuit de l'hiver, enfin, Soukhot, quoi. Alors, c'est pas n'importe qui peut annoncer Talumata. Souvent, quelqu'un qui tape sur la table, à Soukhot, pour dire que désormais, on va dire Talumata. C'est le rave qui doit annoncer Talumata. Ou alors, un shamash, ou quelqu'un qui est en charge, qui était chargé par le rave de l'annoncer. Bien que tout le monde connaisse la halakha, tout le monde sait très bien que cette nuit-là, on doit venir Talumata. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette annonce-là? Parce qu'on ne peut pas décider d'une halakha, d'une nouvelle pratique, sans avoir demandé l'accord du rav. Ça veut dire que si on fait sans avoir demandé, même si c'est parfaitement en ordre avec la halakha, ça s'appelle Esh Zara. On trouve que lorsque le roi Chizkiyahou entrait dans le Beth Amikdash, d'abord il était le roi, mais en plus de ça, il était un Adam Gadol. Chizkiyahou, c'est celui qui a failli devenir Mashiach, oui. C'est lui qui était presque Mashiach. Alors, les Kohanim ne commençaient pas la Avoda avant d'avoir obtenu sa permission. Bien que, en fait, c'est tous les jours qu'ils faisaient des korbanot. Donc, ils en ont fait hier, ils en ont fait ce matin, lui, il est arrivé dans l'après-midi. Il connaissait parfaitement la halakha. Mais en présence du roi, quand ce roi, en plus, était un Adam Gadol, alors ils n'ont pas commencé la Avoda sans avoir interrogé et obtenu la permission. Et on peut élargir cette loi que si quelqu'un fait un chidouche à partir d'un verset, une dracha, même un kal vachomer, on a dit un kal vachomer, raisonnement par kal vachomer, c'est-à-dire à peu près un a fortiori. Normalement, on a le droit d'inventer un kal vachomer. Si j'en invente, j'ai le droit de l'en faire tout seul. Sauf que n'importe quel chidouche, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas comme ça jusqu'alors. Et donc, la halakha, c'est normal, la halakha, elle change, elle évolue. Mais le Dayan, il n'a que ce que ses yeux voient. Donc, au début, il faut vérifier avec Adam Gadol, est-ce que, avant de commencer à faire quelque chose d'après une nouvelle dracha, et si on n'a pas reçu la permission de son maître, c'est Hashzara. Et Nadav et Avihu, ils ont fait comme ça. Bien que ils avaient déjà entendu la dracha, comme on a vu plus haut, ils connaissaient la dracha que Moshe Rabbeinu avait dit, que bien qu'il y ait du feu du ciel, il y a une mitzvah d'amener un feu d'origine humaine. Mais en fait, comme ils n'ont pas demandé la permission de le faire, et qu'on l'avait encore jamais fait. On est à l'inauguration, donc je vous rappelle. Donc ils auraient dû demander la permission. Et donc c'est pour ça qu'il y a maintenant une azara, une mise en garde qui est faite à Aaron, par Moshe Rabbeinu, qui lui dit, ne fais pas quoi que ce soit de nouveau sans avoir l'aval de ton maître. Et si tu vas faire les choses sans Kabbalah, sans avoir reçu l'aval, et l'aval c'est Moshe, c'est son frère Moshe qui doit le lui donner, même si tu fais les choses absolument conformément à ce qui va être la halakha, c'est Echzara. Echzara, c'est quelque chose qui n'a pas été prescrit. Même si la chose est, c'est évident que c'est comme ça qu'il faut faire, pourquoi est-ce que je dois entendre la, pourquoi est-ce qu'Aaron doit entendre la halakha de Moshe alors qu'il la connaît? J'ai la halakha, je l'ai établie à partir de principes d'herméneutique, disons, que j'ai reçus de Moshe. Donc j'ai, d'une certaine manière, j'ai fait ce que Moshe m'a dit de faire. En fait. Il y a 13, disons, Midot, 13 mesures, 13 façons d'interpréter. C'est Moshe Rabbeinu qui nous les a enseignées. Et malgré tout, il faut voir avec ton maître si la dracha que tu fais, elle est juste, elle est correcte. Et même si ce que tu fais est correct, comme c'était le cas avec Nadav et Avihu, ils n'avaient pas raison de faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas eu la hora'a de leur maître, Moshe. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de cette paracha de Yom Kippour, plus bas, c'est marqué Vayas Kasher Tziva Hashem et Moshe. Et a priori, cette phrase-là, elle est complètement inutile. Parce qu'il y a une avamina que Aaron fa ne fasse pas comme Moshe l'avait ordonné. Non, le passage vient dire qu'il n'a rien fait, aucune dracha, aucun chidouche qu'il aurait lui-même fait, développé, etc. Non, au départ, il a toujours demandé à Moshe Rabbeinu, et c'est ça le Kasher Tziva Hashem et Moshe. Il a fait comme Hashem l'avait ordonné à Moshe. C'est ça la Hazara qu'il a reçue, la mise en garde que Aaron a reçue. Al ta'aseh shum drashot, shum chidush, rak ta'aseh ma she'nitzavita. Tu ne fais que ce que tu as reçu l'ordre de faire. C'est ça que tu dois faire, pas autre chose. Alors, comment se fait-il qu'en amenant le Hanan Haktoret, Aaron va pouvoir entrer et rencontrer, en quelque sorte, si on peut appeler ça comme ça, entrer dans cette relation avec Hachem, qui s'appelle Erae, où Hachem dit « Je me montrerai, j'apparaîtrai ». Alors, quand dans le passouk on dit, donc, Al yavov b'cholet el hakodesh, ki be'anan era el hakaporet, il ne peut pas venir à tout moment parce que j'apparaîtrai sur le caporet, sur le couvercle du Aaron. Chez Tamid, Anin, Irasham, Sham. Im Amud Anani, comme on a vu dans Rashi, Bemet, En fait, on aurait pu dire qui Erae la Caporet, Erae la Caporet, sans mentionner le Hanan. On a besoin de dire le Hanan. Puisque la Kavana, c'était chez. Parce que Akadosh Baruch Hu se trouve là-bas, lui, il ne peut pas entrer. Quelque part, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il y a Hanan? On ne veut pas qu'il voit le Hanan. Évidemment, ce n'est pas ça. Et s'il avait regardé par les fenêtres dans le Kodesh HaKodashim, et en parenthèse, il dit, je ne sais pas si c'est permis, je sais pas si on avait le droit de regarder dans le Kodesh HaKodashim par la fenêtre. Il y a des fenêtres dans le Beth Amikdash. Pardon? Pardon? Dans le Kodesh HaKodashim, il y a une fenêtre. Oui, bon, enfin. Abdovin, c'est ce qu'il dit. Oui. Bon. Michel Gronstein n'est peut-être pas d'accord, mais Abdovin Feinstein, il pense comme ça. Alors, s'il avait vu le Hanan, alors, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le Ribbono shel Olam se trouve là-bas, et donc, à Yavo. Comme Moshe Rabbeinu ne pouvait pas entrer parce que c'était plein. Là, lui, Hachem se trouve là-bas, et Hachem dit, si je m'y trouve, tu peux pas entrer. Ozak Razal disent, c'est le deuxième pshat dans Rashi, que la kavana ki be'anan erea la kaporet, c'est shelo yavo ki im be'anan aktoret, biyom kippourim. On a renversé le hanan au lieu de, comme on a vu, au lieu d'être le hanan de la présence divine, c'est un hanan d'origine humaine, qui est amené par Aaron, par le Kohen Gadol, c'est un âne du Ktoret, et pas un âne de la présence divine. Donc, lo yavo im be'anan haktoret be'yom kippourim, c'est ça la dracha, la deuxième dracha de Rashi. À ce moment-là, avec le anan haktoret, là, tu peux me voir. Dit Hachem. C'est-à-dire, tu peux voir la Kdusha qui se manifeste là-bas lorsque on approche le Hanan
Haktoret.
Le Ah, non, a priori, ce n'est pas dit qu'il se mêle. Lui, il vient avec ça. Donc, peut-être, Anan Moul Anan, peut-être, mais je ne dis pas qu'il ne s'est pas marqué qu'il va se mêler. Oui, dans le feu, c'est une drachat de Moshe Rabbeinu. Bien que le pasouk dit qu'il oirani à Adam vachai, bien que ce soit marqué que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, l'oirani à Adam vachai, l'homme ne peut pas me voir et vivre, peut-être que c'est seulement un jour normal. Mais peut-être Yom Kippour, le Kohen Gadol, il peut voir parce qu'il est dans un autre monde quasiment. Ou alors, on peut dire que le pshat lo irani à Adam vachai, ça veut dire iefchar le Adam lirot et ta ribon shalom, et la miyad, chez Uroé et ta ribon shalom, et no yachol lichyot od. C'est juste que, c'est pas que tu peux pas voir, mais une fois que tu l'as vu, tu peux plus vivre. C'est ça que ça veut dire. Pas qu'on peut pas voir. On peut voir, mais ça veut dire que tu meurs. C'est-à-dire, tu ne pourras pas raconter ce que tu as vu. Si tu vois, tu meurs. D'autres termes, c'est comme si Si on ne peut pas raconter qu'on l'a vu, c'est comme si on ne l'avait pas vu, parce que quelque part, si tu ne peux pas le raconter. Mais ici, Yom Kippour, peut-être le rechout est donné de voir et de ne pas mourir. Peut-être parce que Yom Kippour, pour le Kohen Gadol, c'est autre chose. Il est dans un autre monde. Et donc, ça veut dire que l'explication du mot Erae, j'apparaîtrai. Ça veut dire que, bien que à tout moment, il y ait présence divine dans le Mishkan, mais on ne peut pas voir à tout moment. Ribbono shel Olam, le maître du monde, en fait, n'est pas visible. Il n'est visible qu'à Yom Kippour, grâce à la avoda spécifique du Ktoret. Comme si on avait une matière particulière qui allait compenser, qui allait rendre visible la présence divine. Hachem est là, mais il n'est pas visible, mais comme un révélateur, quoi, quelque part. Mettez un révélateur dans la photo un révélateur d'une couleur, etc. Vous passez, je sais pas, à l'eau et puis ça révèle une couleur, etc. Voilà, le révélateur en question,